France Inter.
Club.
Go.
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 Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et go Marion Guilbeault, bonsoir.
Go Laurent, bonsoir à tous.
Côté club, pour vous servir votre dose quotidienne de musique avec le meilleur de la scène française. Ce soir, programme téméraire avec nos invités Jean-Yves Labbé de Rossi et Aimé Simone. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Aimé Simone, double actualité et pas des moindres, la réédition deluxe de votre album Oh Glory et une nomination aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation masculine 2024. Jean-Yves Labbé de Rossi, pour vous, c'est un livre, Rock Me Amin, vos aventures tragi-burlesques en Ouganda, alors que vous projetez, fin des années 70, d'enregistrer le dictateur psychopathe Idi Amin Dada à l'accordéon, dans une cover d'un chant de Noël de Little Drummer Boy, connu ici en France sous le titre de L'enfant au tambour. Alors déjà vu comme ça, c'est dingue, mais ce qui vous attend là-bas est encore plus fou, délirant et atroce. Marion,
comment émerger de l'océan des titres proposés par les plateformes? Comment réussir son premier concert, assurer son premier festival, convaincre Laurent Goumard qu'il doit vous inviter d'un côté club?
Jamais!
Beaucoup de dispositifs existent en France pour soutenir la jeune création, la diversité musicale. On s'y intéresse vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert, grand, entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture et loi, je vous conseille d'écouter sa Radio 2, toujours disponible sur le site de France Inter. Et loi, il navigue entre Sébastien Tellier, Sexy Sushi, Brigitte Fontaine et O2N, une culture musicale large pour un son assez radical, sans cesse, sur France Inter. Simone et Jean-Yves Labbé de Rossi sont nos invités côté club ce soir. Je ne pense pas que vous vous connaissez, mais peut-être me trompe-je?
Non, on vient de faire connaissance.
On vient de faire connaissance.
Dans la loge, mais j'en étais sûr, je m'en doutais. Aimé Simone, une nouvelle voix dans le paysage musical français, ce qui vous vaut une nomination aux Victoires de la musique cette année, catégorie Révélation masculine avec Yamé et Nuit incolore. Autrement dit, vous avez toutes vos chances. comme je suis méchant.
Ah ouais, ça commence comme ça.
Ah ouais,
deux albums, le premier en 2020, Say Yes, Say No, avec notamment ce titre, que dis-je, ce tube, Shining Light, plus de 41 millions de streams sur Spotify quand même. Qu'on appelle un hit ou un banger, si l'on veut, quand on est en concert. Le second album, Glory, Oh Glory, est sorti l'année dernière. Vous le rééditez, version de luxe augmentée. Pour autant, la musique commence quand pour vous ? 2020, c'est le premier album, mais la musique commence à quel moment ?
Jeune, très tôt, je pense vers 8 ans, je commence à écrire mes premiers textes. La guitare vers 11 ans, 12 ans, et puis ensuite l'écriture vers 15 ans. Puis tout s'est enchaîné avec les voyages et tout ça, et la production s'est venue un peu naturellement dans la continuité de l'écriture. Voilà, ça fait quelques années déjà.
On reviendra sur votre parcours dans quelques instants. Pour vous, Jean-Yves Labat de Rossi, l'aventure musicale a commencé il y a bien longtemps. Elle a pris plusieurs formes depuis les années 60. Il y a eu le 45 Tours en 1967. Comme tout le monde à l'époque, 4 titres. Les comtesses, tout ça. Un mot sur cette période-là ou
Non, c'était un peu de la chanson.
C'était de la chanson, juste pour mettre le pied à l'étrier.
Oui, c'était l'époque, la chanson, mais on passe.
On passe, très bien. Plus important, en effet, ce sera la première aventure d'un parcours hallucinant avec ce son.
Just like George. Let's try incredible with an old time coat.
No, things just ain't the same.
Let's try a wedding, make it a 26. Oh, wow, incredible, really too much. Chorus? She whips, oh, wow, incredible, too much. Like cool and hip, fantastic.
Just Like George, on est bien loin de Les Comtesses, le premier 45 tours chez CBS à l'époque. Qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend là, c'était le Baba Scolae, donc le premier groupe rock que j'ai fondé, n'est-ce pas ? Donc avec un Hongrois et 4 Anglais. Et nous avions été tenter notre aventure en France, bien sûr, mais outre-Manche aussi, dans ce qu'on appelle le Swinging London à l'époque.
Et c'est véritablement là-bas, à Londres, que ça a pris. En France, c'était pas véritablement ce que l'on écoutait à l'époque.
Oui, on est toujours resté un groupe un peu underground, hein, le Baba. Mais on a joué au Rock'n'Roll Circus en France, un peu à Saint-Tropez, comme tout le monde. Un concert pour les Black Panthers, quand même, à la Mutualité. On s'est ramassé des bouteilles sur la gueule. Et après, Londres avec le Speakeasy, le Marquis, voilà quoi.
Alors, je parlerai de ce parcours avec plein d'aventures, mais ça commence déjà avec ce premier enregistrement, puisque l'album a été édité, enfin, il y a toute une légende urbaine, il a été édité à peu d'exemplaires, les bandes ont été perdues, vous avez tout retrouvé en 2012, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps en fait.
Oui, les bandes, les masseurs ont été perdus. C'est-à-dire, après l'enregistrement de cet album, j'ai migré aux États-Unis, donc j'arrive à Woodstock, voilà. Et pour tout bagage, une valise, mon épouse d'alors, qui était enceinte, un vrai roman, quoi, et mes masters. Et je m'établis à Woodstock, et là, c'est grâce à ces bandes que j'ai été signé par Albert Grossman.
Alors voilà. Justement, on va continuer ce parcours. On continue la bande-son de cette histoire avec ce titre, on est en 73.
Thank you.
Et mais Simone, je vous vois intriguée et amusée même par ce que l'on est en train d'écouter.
Ouais. Parce que ça me parle. Je reconnais des choses que j'ai déjà entendues. Alors je connaissais pas exactement le titre de la chanson, mais ça, c'est des choses que j'ai écoutées moi dans mon développement artistique.
À l'époque, vous étiez Mr. Frog, monsieur.
Voilà, les débuts de Mr. Frog.
Mr. Frog, donc ça se passe à Woodstock, mais bien après, bien entendu, le concert.
Peu de temps après,
mais en tout cas, c'est fini l'histoire.
Voilà, l'histoire du concert est finie et c'est le début du Albert Grossman Kingdom.
Vous voyez qui est Albert Grossman ?
Oui.
Bah, c'est surtout le manager mythique de Bob Dylan.
Voilà, de Bob Dylan, de Janis Joplin, d'Utopia, voilà.
Comment ça se fait qu'un Français qui arrive à Woodstock est signé par Albert Grossman ?
Ça, il aurait fallu demander à Albert.
Bah, vous le savez un petit peu quand même, j'imagine, vu du son que vous avez produit, peut-être.
Non, il a écouté le Baba Scolae, et à l'époque, j'étais dans la dèche, je lavais la vaisselle dans son restaurant, et il arrive un jour en me disant « Jean-Yves, enlève ton tablier, suis-moi ». Donc je suis dans son bureau, il me dit « Sally, donc son épouse, m'a fait écouter les bandes, donc les fameuses bandes du Baba Scolae, avant qu'elles ne soient perdues ». Et il me dit simplement, il me regarde, il me dit « How much ? Combien tu veux ?» Alors j'étais quand même surpris, et il m'a proposé un contrat et il m'a signé.
Et vous avez signé, donc vous êtes devenu Mr. Frog.
Et je suis devenu Mr. Frog.
Et c'est là où l'on arrive à ce récit, Rock Me Amin. On arrive au début parce que ça s'est bien passé avec Albert Grossman, sauf qu'il va vous répudier, c'est le début du livre, et vous répudie dans des conditions très difficiles, même très violentes. Qu'est-ce qu'il vous reprochait ?
D'avoir voulu lui casser la gueule. Voilà. Donc Albert commençait à m'énerver en tenant pas ses promesses, des petits problèmes au sein du groupe Utopia aussi. Et un jour, j'ai pété les plombs et j'ai voulu lui péter la gueule. Ce qui était une très très mauvaise idée, car il m'a sommé de quitter Woodstock en me faisant savoir que Chicago n'était qu'à 2 heures d'avion. On a compris. Donc j'ai pu m'en tirer en faisant appel à un ami à moi qui lui aussi était dans la mafia, mais la mafia italienne, voilà, qui était je l'ai appris après, hein, qui était le neveu d'un parrain à New York et qui a été traiter mon cas avec Albert.
Ben oui, la rencontre est hallucinante. Vous êtes dans un restaurant, en fait, dans le
restaurant d'Albert.
De toute façon, toute la ville appartenait à Albert Grossman.
Oui.
Toute la ville. Donc, voilà. Dans un de ses restaurants, vous y êtes, à leur table, à sa table.
À sa table, oui.
Il arrive vers 9h, au moment où il doit prendre toujours son petit déjeuner.
Oui.
Et là, il vous trouve, il a envie déjà de vous fusiller, mais de dos, il y a donc le type de la mafia
Lucky.
Qui se retourne. Et voilà. Votre cas est résolu. Presque résolu.
Presque résolu, sauf qu'il me boycotte aux États-Unis. Donc, je n'ai plus à quitter Woodstock. Bye bye au Chicago Boy, plus de problème avec la MAF, mais il m'assure que je ne trouverai jamais plus un contrat aux États-Unis, et son boycott a été redoutable.
Ce livre donc raconte vos histoires sexe, drogue, alcool, meurtre et crocodile en Ouganda en 1977, des aventures autour de ce son. Là-bas de Rossi, vous êtes le maître d'œuvre de ce son. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, on écoute une version électroacoustique d'une reprise de Little Drummer Boy, donc avec des musiciens que les gens du rock connaissent, comme Stevie Lage, Darius Brubeck, la famille Brubeck, Maruga du Weather Report, au percu, voilà. Donc j'ai fait cet enregistrement et c'est cet enregistrement qui va...
Tout déclencher. Ce titre donc au centre de votre livre Rock Me Amin, parce que c'est ce titre qui va vous précipiter en Ouganda. L'idée vient de Peter Horvath, c'est le patron du département artistique de Polydor Canada, parce que vous avez quitté les États-Unis pour vous réfugier au Canada. Mais comment ce type a-t-il pu avoir une idée aussi dingue quand il écoute ça, de vous envoyer en Ouganda?
Oh ben c'est très simple. Je voulais obtenir un contrat de licence avec lui pour une musique que j'avais faite sur Pumping Iron, donc le film qu'a révélé Arnold Schwarzenegger. Donc j'avais fait un titre qui s'appelait Pumping Iron. Et Peter aimait beaucoup, lorsqu'il a écouté Little Drummer Boy, que j'avais sorti sur Barclay Canada, il aimait beaucoup ce titre. Et sur la porte de son bureau, il avait suspendu un grand drapeau ougandais. Je lui raconte mes problèmes avec Albert, etc.
Le fait que vous n'avez plus de fric du tout.
J'ai plus de fric du tout, je suis blackboulé. Et il me dit, bon, je te propose un contrat de licence pour Pumping Iron, mais pour tirer l'affaire, tout d'un coup, il me dit, j'ai l'idée qui va te sortir de... Voilà, de la situation dans laquelle tu es. Pourquoi tu vas pas m'enregistrer ce gros con d'Amine et le synthétiser sur Little Drummer Boy? Alors je lui ai demandé quand même s'il se foutait pas de ma gueule. Il me dit non, pas du tout. Il me dit là, je te fais un hit. C'était l'époque des hitmakers, hein, à l'époque. Je te fais un hit et avec ça, tu tires la queue du Mickey, tu remportes la mise et tu te sors du pétrin dans lequel tu es. J'ai accepté, je me suis dit oui, après tout, pourquoi pas, donc l'avance qu'il me proposait était monumentale à l'époque, hein. On parlait quand même de 250 000 dollars sous la table, on peut le dire maintenant, ouais. 16% de royauté,
ouais, c'est
tu
pas
vois
mal,
ce que
hein,
ça donne dans...
On n'en est plus là, hein, monsieur.
Dans ces années-là, arrive Ronnie Hawkins... Donc, une figure aussi du rock'n'roll qui trouve l'idée géniale, nous traite, comme je le dis dans le bouquin, Ronnie jurait tout le temps d'enculer géniaux qui avaient trouvé l'idée du siècle, etc., en nous insultant. Enfin, c'était parfait, j'accepte, j'embarque, et ce pari fou, ben je l'ai tenu jusqu'en Ouganda, bien sûr, pour aller à la rencontre d'Amine.
À la rencontre d'Amin Dada, qui se présente quand même comme le conquérant de l'Empire britannique en Afrique, le maître de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer. Donc le plan, c'était d'enregistrer pas simplement, pas du tout la voix d'Amin Dada, mais Amin Dada
à l'accordéon.
Parce qu'à l'époque, oui. Tous les chefs d'État jouaient de l'accordéon.
Voilà.
En France, on avait Giscard d'Estaing.
Exact.
En Ouganda, c'est vrai, ils avaient Amin Dada. Il y avait un truc autour de l'accordéon.
Oui, absolument. Donc mon idée, c'était de synthétiser Amin avec son groupe. Voilà, et lui faire un solo d'une transcription du Little Drummer Boy, un peu à l'africaine, hein, sur un game de Kadondo, mais voilà, c'était ça l'idée.
Alors, sur le papier, ça se tient, enfin pour moi pas du tout, mais ça se tient. Arrivé sur place, vous allez être confronté à une ville absolument démente. De toute façon, on vous envoie des putes toute la journée dans votre chambre d'hôtel, enfin c'est n'importe quoi, pour vous tirer les verres du nez, parce qu'au départ, on n'arrive pas à croire que vous, un blanc, vous veniez en Ouganda pour enregistrer Amin Dada, ça paraît complètement dément. Et vous êtes confronté à une ville traumatisée par un film, le film du cinéaste Tarbet Schroeder sur Amin Dada.
Voilà. Donc, Amin, à la suite de ce film, du reste, avait demandé des coupures à Tarbet Schroeder.
Qu'il avait refusé au départ.
Donc, il avait kidnappé, tout simplement, réuni dans un hôtel, les ressortissants français, entourés par l'armée ougandaise, avec le numéro de téléphone d'Amin, avec le numéro de téléphone de Schroeder. Et Amin leur avait dit, vous appelez Schroeder. Et il y a que lui qui va pouvoir le libérer, qu'il accepte les coupes que je lui ai demandé de faire. Donc Schroeder a cédé.
A cédé parce que quand même les coupes c'était des gens que l'on envoyait directement
au
en pâture, crocodile, au crocodile.
En pâture,
enfin,
au crocodile, oui, enfin, on en passe des meilleurs. Oui.
Pour enregistrer Amin Dada, pour le rencontrer, d'abord, première étape, il faut rencontrer, ça me fait rire mais c'est atroce en fait, le rat blanc. Qui est le rat blanc?
Alors, le rat blanc est un Anglais du nom de Bob Assol, qui était l'éminence grise d'Amin. Hein, c'était son conseiller, l'éminence grise, du reste, qui était aussi craint qu'Amin en personne. Hein. Et c'était un fou furieux, c'était un Anglais qu'Amin avait fait interner d'abord, et c'est Amin qui lui avait donné ce surnom du rat blanc. Donc, le rat blanc, c'était le seul moyen pour moi de rentrer en contact avec Amine après la défection de ma connexion ougandaise, qui le premier soir m'a fait savoir que, un, il ne m'aiderait pas, et deux, et qu'il valait mieux que je foute le camp tout de suite. J'ai décidé de rester, et donc j'ai réussi à monter un coup pour approcher le rat blanc qui se tairait vraiment, qui ne sortait jamais du palais des capitaines de villa. Voilà.
Première rencontre, tout est joué. Avant son arrivée, avant l'arrivée du rat blanc, un singe vous saute dessus, oui, et va véritablement vous massacrer. Et le rat blanc arrive, je lis. Un stop monkey paralyse instantanément le primate. C'est la voix de son maître. Je me retourne, de taille moyenne, plutôt sec, une cinquantaine d'années, cheveux gris courts, peignés en arrière, front dégarni, le visage émacié, barré par une généreuse paire de moustaches, un congénère du colonel Nicholson, à la Guinness, dans le pont de la rivière Kouai. Il sort de son bureau, très calme, d'un pas mesuré, il se dirige droit sur l'animal. Arrivé à sa hauteur, il le prend par la main, le soulève énergiquement et d'un ample mouvement du bras, l'envoie valdinguer de toutes ses forces contre le mur. L'impact est d'une telle violence que j'ai l'impression que Monkey s'y décalque avant de retomber au sol. Chiffre molle sur marbre blanc, la boule de poil en folie ne se relèvera pas. Les présentations sont faites. Ouais. Ça, c'est la première prise de contact avec donc, le rat blanc, qui dit bien tout ce qui va se passer par la suite.
Donc, en guise de présentation, bon, vous le comprenez très bien, c'était un peu sec. Et après, donc, je lui explique ce que je voulais faire, ce qui m'amenait. Je lui demande s'il veut bien me recevoir, il l'accepte. Et là, je n'avais rien d'autre à faire. Gonflé, j'ai pris mon synthé, c'était un petit AKS de l'époque, avec le clavier thermocontact. Je l'ai mis sur son bureau, et je lui en ai envoyé plein les esgourdes. Je lui ai envoyé une version de Little Drummer Boy à la cornemuse, sachant que son excellence, voilà, le président Amine Dada adorait ça. Je me suis dit, je vais l'embabouiner comme ça. Et incroyable mais vrai, mais ça a marché.
Ça a marché. Vous avez rencontré donc Amine Dada. Quel fut le contact? Parce que là aussi, vous allez tout donner pour pouvoir les convaincre avec une sorte de concert magistral.
Ah oui, c'était dingue ça. Donc, il me fait savoir, après ce premier rendez-vous dans lequel je retrouve dans son bureau la pute, comme vous
quand
le
vous
disiez,
avez envoyé
qui était venue pour me tirer les vers du nez en me disant « Amine, veut me faire la peau » et je la retrouve dans le bureau du rat blanc. Donc elle était du SRB, hein, un peu de la Gestapo ougandaise. Voilà, donc là j'y comprends vraiment plus rien. Et Bob Assol me dit « Voilà, préparez-vous, son excellence va venir vous entendre ». Donc je mets au point, je rencontre les musiciens d'Amine. Je mets au point bon une petite épée, un truc comme ça, et là Amine arrive et il me fout la trouille. C'était bestial, la trouille c'est physique, et je le dis, donc, j'ai eu peur, cette espèce d'énorme un monstre, il fait pas loin de 2 mètres, il doit faire dans les 120 kilos, et il me dévore du regard, cet enfoiré, et il me fout vraiment les jetons. Et là, il discute avec Assol, qui paraissait comme un petit nain à côté de lui, et ils me disent, bon, Assol vient me voir en me disant, ben maintenant, son excellence désire vous entendre, allez-y. Et il me dit, je savais pas si c'était mi-figue, mi-raisin, be good, young man. Donc, c'était un encouragement, une menace, je sais pas trop. En tout cas, j'y vais, et là, c'est surréaliste. On était sur la terrasse des Captain Villa, sur le lac Victoria. J'avais de super amplis, donc je fais cracher les 100 watts du Marshall, la réverb à fond, et je lui balance Little Drummer Boy avec mes bignous et tout le beans, et c'est ce que je dis, bon, le Bagdad de Lambiway sur les bords du lac Victoria, ça swing au max, et je termine mon truc, j'étais plongé dans mon truc, voilà, concentré, mais je me suis lâché. Et là, quand je me retourne, ils ont disparu, Amine et le rat blanc ont disparu. Après, le rat blanc me fait appeler dans son bureau et il signifie qu'Amine est d'accord pour faire l'enregistrement et qu'il met son groupe à ma disposition. Alléluia.
Alors là, je ne vais pas tout raconter parce que ça ne va pas se passer comme ça, je n'ai rien à dire de plus. Ça va quand même très mal se passer, vous allez vivre l'horreur, la prison, le meurtre devant vous, véritablement d'une femme enceinte torturée et vraiment achevée sous vos yeux, oui. Les prisonniers massacrés destinés à nourrir les crocodiles, vous-même êtes dans un état proche de la folie. À quoi on se raccroche quand d'abord on vous brise les doigts et qu'on est comme ça témoin et sur le point d'être assassiné par...
Mais c'était le camp de la mort de Nacacero. Dont l'espérance de vie à Nacacero était de 48 heures si on avait de la chance. Généralement, mieux valait y passer en 24 heures. Et c'était l'horreur absolue, c'était l'enfer. Donc dans le livre, je reste quand même assez pudique sur tout ce que j'ai vu et enduré. Mais voilà,
à quoi on se raccroche, en fait ?
Moi, je sais pas... Je sais pas, j'étais perdu, on perd la notion du temps. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que j'allais quand même pas mourir comme ça, parce que c'était trop con. On est abruti, je pense qu'on est abruti par la douleur, on est abruti. Vous savez, ne plus pouvoir dormir à cause des cris de torture, à cause de cette ampoule que j'avais sur la gueule au plafond tout le temps, dans une cellule... qui était merdique, il y a pas d'autre mot, avec des odeurs d'urine. Enfin bon, on ne vit plus, on est dans les cercles de l'enfer. Alors à quoi je me raccrochais ? J'ai la foi. Tout simplement, j'ai remis mon âme à Dieu. J'avais trouvé, bon, un petit détail du livre, mais j'avais trouvé cette capsule de Pepsi par terre, je l'avais aiguisée, et je me réconfortais en disant que, bon, c'est moi qui me couperais les veines et que je ne serais pas massacré comme tous ces malheureux dans la cour du camp.
Le livre raconte ce qu'il a pu arriver, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que cette histoire vous hante encore aujourd'hui ? Est-ce que vous en rêvez, par exemple, au vu de ce que vous avez pu vivre là-bas ?
Alors, oui, c'est ce que j'écris. Je suis réveillé parfois. C'est très impressionnant parce que quand j'ai fait des cauchemars, j'ai fait beaucoup de cauchemars, ce n'est pas tellement la vision, mais c'est le son. Ce son de cette femme qu'ils ont massacrée, le cri qu'elle a poussé. Et c'est ça qui me réveille.
Vous avez arrêté votre carrière de musicien par la suite ? Mais pas le son, vous avez continué à travailler la musique.
Oui, bien
aujourd'hui,
sûr, bien
vous
sûr.
Avez un label de musique.
Oui, Advitam Records.
Qui
oui,
travaille en
sûr.
Effet des choses beaucoup plus, on va dire, généreuses.
Dans le domaine classique.
Dans le domaine classique, de la paix. Oui. Et vous avez même, à la fin des années 80, c'est ça qui m'a intéressé, vous avez mis au point un système de prise de son qui s'appelle TTL. C'est quoi ?
TTL, c'est True to Life. Comme on le voit dans le livre, ma révélation musicale, ça a été l'orgue. En jouant de l'orgue, gamin, mes pieds ne touchaient pas le pédalier, donc c'était formidable. C'est là où j'ai compris Bach. Enfin, prétentieux, non. J'ai compris ce que Bach voulait dire avec le Solideo Gloria. J'ai compris que la musique était la plus belle des prières. Et donc je suis retourné après à mon premier amour, à l'orgue. Là, j'ai été producteur de musique sacrée à Notre-Dame de Paris pendant un moment, et j'ai décidé, ne pouvant plus jouer et n'ayant jamais pu être organiste, de faire une anthologie de musique pour orgue, pour Sony Classical, et pour ce faire, pour bien enregistrer les orgues, avec un ami ingénieur, John Holbrook, nous avons développé ce système TTL, qui veut dire True to Life, un système d'enregistrement au plus près, je pense, de la vérité de l'émission du son et de la captation du son.
Aimé Simone, qu'est-ce que vous inspire ce parcours absolument dément ?
Ouais, je sais pas encore, j'ai pas les mots là.
Vous allez voir, si vous lisez le livre, c'est vraiment, vous êtes, enfin, j'en ai raconté très peu par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur. Jean-Yves Labat de Rossi, voici la suite du programme, le rendez-vous avec Marion Guilbeault, puis Aimé Simone, nommé Révélation de la musique, ce sera juste après No More Time de La Lies.
J'ai cherché à plaire à une conne, j'ai failli y laisser ma plume. Maintenant c'est plus à chercher des tonnes pour impressionner des blondes et des brunes. J'ai une tonne de flots dans le coffre, ça va tremper le ciel et la lune. Pas de VVS, pas d'ail sur ma peau, je vais pas attraper un putain de rhume. Hein. J'ai cherché une vue sur la mer pour être la première pour le tsunami. Je lui ai dit tous les jours je t'aime, elle a cru de la mythomanie. J'étais toute la nuit en train de pêcher, le matin j'attendais un miracle. J'ai jamais su faire semblant, c'est une force ou bien un handicap. Apparemment tu n'es plus content de moi, mais tu sais qui appelait en fin de moi. Pourquoi aux gens pour content de moi, mais on sait que colle en fin de moi. No, no time.
Moment time, Lal Hayes, il est plus que temps de retrouver Marion Guilbeault sur France Inter.
Côté club,
j'ai tout ce qu'il faut dans les oreilles.
Yeah sur France Inter.
Jean-Yves Labat de Rossi, Aimé Simone, est-ce que vous saviez qu'il existe aujourd'hui en France plein de dispositifs pour se faire entendre quand vous êtes un artiste émergent et pour découvrir ceux et celles qui feront demain. Cette semaine, ce soir même, dans certaines villes françaises, se déroulent les auditions pour les futurs Inouïs du Printemps de Bourges. On suit l'affaire de très près dans Côté Club. Jusque-là, les nouvelles voix, elles étaient souvent repérées par les festivals. Bourges, les Franco, Chorus, pour ne citer que, les Tremplins, les Salles, le FGO Barbara avec Variation, les Prix, le Charles Cros, le Joséphine, le Cécile Pollet. Mais pour l'heure, c'est une application musicale, la fameuse Shazam, qui, avec ses 300 millions d'utilisateurs mensuels et ces millions de titres reconnus chaque jour dans le monde entier prétend avoir la faculté unique de prédire les prochains succès. Shazam vient donc de dévoiler sa playlist annuelle Prédiction 2024, 50 titres artistes qui, selon les algorithmes, ont toutes les chances de cartonner cette année. Et dans les 5 artistes français qui se démarquent, il y a Opinard qui fait déjà un carton sur TikTok avec ses vidéos nonchalantes et qui revitalise la bossa nova avec sa guitare et son flow solaire.
Le temps passe à une vitesse, je n'ai aucune idée de ce que je serai demain.
Mais cependant,
il faut que je soigne ma tristesse. Mais à vrai dire, je ne sais pas faire grand chose de mes mains.
Et c'est pour cette raison que
j'ai besoin de ta délicatesse. Par contre, need it right now et non pas demain. S'il faut venir, donne-moi l'adresse. Je serai prêt à tout même affronter ton papa le forain.
Est-ce que tu sais que j'ai accumulé pas mal de déchets? Tu refais que tu sois là dans mes bras. Moi pour toi des cours j'en ai séché. Et plus une fois mon père me démembra. Par contre il s'agirait de se dépêcher. Plus de 5 minutes que je t'attends dans les draps. Pour la musique pas la peine de chercher. Parce que ça se passera.
Sur de la bossa nova. Sur de la bossa nova. Ah. Sur de la bossa nova. Sur de la bossa nova.
Opinard avec Bossa Nova, Opinard qui a été un des Inouïs du Printemps de Bourges en 2023. Et les planètes continuent de s'aligner pour ce jeune Bordelais puisqu'il vient d'intégrer la sélection du chantier des Franco 2024. Pour la petite histoire, en 2023, Shazam avait distingué le rappeur Wironois dont l'album Carré a été un des disques les plus vendus de l'année dernière en France. Le pouvoir de l'algo, Laurent. Autre initiative pour faire émerger les talents de demain, c'est celle de Bouscapé, le site numéro 1 sur la culture urbaine, qui sélectionne depuis maintenant 8 ans sont les futurs artistes qui pourraient s'imposer dans le rap francophone dans les mois, voire les semaines à venir. Seul critère de sélection, l'artiste ne doit pas avoir encore sorti d'album studio ou en tout cas pas encore confirmé l'étendue de son talent à l'ensemble du public. En 2016, Damso, Hamza, Ninho avaient été mis en valeur. 2017, Lorenzo. 2021, SDM. Bref, c'est vraiment une sélection à suivre de très près et dans les 11 à suivre. En 2024, on a craqué à Côté Club sur une jeune rappeuse de Madagascar installée à Strasbourg, Kay The Prodigy, une adepte du mumble rap, comme sa consoeur Lalaïs, entre rap, grime ou drill, des étiquettes qu'elle décolle à toute vitesse.
Tu sais pétasse, je suis béni, tous ces rapports sont dans le déni. Je connais la marche à suivre, ça va tout seul comme Doremi. Il est ok, face à moi, je sais pas si tu l'aurais mis. La mifa au-dessus, un héritage avec Mel, on fait des dégâts au dur. On fait entre femelles et on le fait bien. Si tu jamais à part ton calcul, on revient pour que je viens. Je le mets machin dans sa bouche parce que je le vaux. Et si t'as déjà vu bouger mes petites fesses, tu sais que je baisse bien. C'est que j'aime bien quand tu cries mon place. Je bouscape peu, bouscape prodige, bien tout bouscaqué. Beaucoup dans ma tête, j'ai craché mon jus comme un boucaqué. Au taquet, comme Ferreira, ils sont gros paquets. Si tu me trouves jolie, tu sais que je suis une baisse. Ma biche préférée m'a dit je suis le meilleur rappeur du grand test. Vente au courant de diamants rose autour de moi, des nanas en métal de bronze. 11ème être piqué, entrer dans les hits. Si tu trouves joli, tu sais que je suis une peste. Ma biche préférée m'a dit je suis le meilleur rappeur du grand test. Vente au courant de diamants rose autour de moi, des nanas en métal de bronze. 11ème être piqué, entrer dans les hits. Si tu trouves joli, tu sais que je suis une peste. Ma biche préférée m'a dit je suis le meilleur rappeur du grand test. Vente au courant de diamants rose autour de moi, des nanas en métal de bronze. 11ème être piqué, entrer dans les hits.
Diamant rose, c'est signé Kay The Prodigy, une des 11 à suivre en 2024, selon Bouscapé, et bientôt dans Côté Club, toute la sélection des 11 à suivre est à retrouver sur les plateformes musicales. Enfin, dispositif plus classique, mais qui fait ses preuves depuis 1998, le fameux Chantier des Francos, une émanation des francophonies de La Rochelle, qui a pour mission de découvrir, d'encourager les nouvelles voix de la scène française en les accompagnant au début de leur carrière. Le chantier a suivi les débuts d'artistes comme Pomme, Christine and the Queens, Big Flo, Oli, Feu Chatterton, November Ultra ou encore tout récemment Zao de Sagazan, nommé 5 fois aux prochaines victoires de la musique dans la sélection 2024. Déjà des noms déjà connus de Côté Club comme Bellboy ou Poppy Fusée qui sera notre invité mercredi soir. 15 artistes vraiment tous épatants, que ce soit les variations orientalisantes et autotunées de Anna Wassim, le théâtre électrique de Liv Odman. Mais je voulais m'arrêter sur une voix, celle d'Arthur Fubandini, un jeune musicien repéré dans les collectifs Moonster et Soleil Bleu et qui plonge aujourd'hui en solo à la façon d'un bachung, ausculter les fréquences cardiaques et les émotions fortes.
Les plongeons sont derrière moi, la chair est devant moi, dire que je ne la voyais pas, ses sentiments, son intensité, je l'ai fuyé, la beauté folle, un tracé qu'au moment. On dirait que je voulais l'oublier. La peur de l'amateur, la peur des profondeurs, me transformer en monstre, lâche et crachant sur les réalités, les personnes chères, les êtres aimés. J'avançais les yeux bandés, le palpitant étouffé, le regard explosé.
Arthur Fubandini avec Lettre à vous, c'est un des 15 artistes sélectionnés par le Chantier des Francos. Enfin, si vous êtes lycéen, lycéenne d'Île-de-France, que vous êtes musicien, musicienne, amateur, que vous avez un projet musical solo ou en groupe, peu importe le style musical, vous pouvez postuler pour première scène, c'est le tremplin du festival Rock en Seine. C'est tout simple, vous vous inscrivez en ligne, il y aura des présélections, des finales, et les lauréats de ces dernières seront choisis par un jury de professionnels pour jouer sur la scène Île-de-France lors du festival Rock en Seine entre les 23 et 25 août 2024. La parraine de l'édition, c'est Pomme, et faire sa première scène entre les concerts de Massive Attack, PJ Harvey ou encore Zao de Sagazan, coup de cœur du festival en 2022 et qui revient sur une grande scène cette année. Aimée Simone, vous êtes nommée dans la catégorie révélation masculine aux prochaines victoires de la musique. Est-ce que vous aviez déjà fait partie d'une sélection jeune talent auparavant ?
Jeune talent,
Que ce soit les Inouïs du printemps de Bourges, le chantier des Franco ou d'autres choses.
Alors j'ai joué au printemps de Bourges, effectivement, mais ça faisait pas partie du programme des Inouïs. Non, plus récemment, j'avais été aussi nommé pour les VMAs.
Oui,
MTV,
qu'est-ce que
c'est ? Artiste de l'année. C'est MTV qui récompense certains artistes pour leur bout de chemin sur une année à l'autre ou pour leur clip, voilà, ce genre de choses. Donc ça m'arrive des fois de faire partie de ce genre de sélection.
Jean-Yves Labadorossi et Aimé Simone sont nos invités côté club ce soir. Aimé Simone donc nommée aux Victoires de la musique, catégorie révélation masculine de l'année. Rendez-vous le 9 février en direct sur France Inter pour le verdict. Vous vous préparez, j'imagine, pour la soirée ?
Oui, je prépare surtout la performance, le show.
Le show que vous allez véritablement donner de la tenue, c'est ça ? J'imagine que vous avez
La tenue, c'est à la fin qu'on prépare. Non, c'est plus
façon.
Bah, ce que je veux faire, ce que je veux apporter. Je vais pas tout révéler maintenant, mais
il y a une grosse pression sur cette préparation d'émission, parce que c'est une émission de télé avant tout et de radio.
Moi, la pression, elle est un peu constante. Enfin, celle que je me mets, en tout cas, du coup, je ressens pas celles qui sont un peu plus ponctuelles, qui viennent de l'extérieur. Non, pour moi, c'est quelque chose de très galvanisant et d'énergisant, et j'ai hâte de pouvoir performer à l'occasion des victoires.
Vous avez déjà choisi le titre que vous allez performer ?
Tout à fait.
On peut le savoir ?
Il s'intitule « Answer the Night ».
Ah, pas mal.
Ouais.
Très bien. Deux albums à votre actif depuis 2020, un tube Shining Light, on l'a entendu tout à l'heure, hein, je le disais, 41 millions de streams sur Spotify. 2023, deuxième album, Oh Glory, réédité aujourd'hui en version de luxe, avec là encore un tube, mais ça c'était dans 2023. Baby, don't quit. Don't Quiet, c'est le titre. Peut-être un mot sur ce que vous entendez, Jean-Yves Labat de Rossi. Est-ce que ça vous parle, ce genre de son, vous qui avez produit du rock psychédélique, du rock progressif ?
Oui, bien sûr, c'est intéressant. J'aime beaucoup une de tes chansons, c'est celle où tu parles de I Saw the Light.
I see the light.
Voilà, ouais. Shiny Light. Excuse-moi, c'est ça. Ouais, je l'aime beaucoup. Il y a un côté balade dedans.
Ouais.
Tu vois, que je trouve beaucoup, qui me rappelle
très
un
doux,
peu.
Ouais.
Un peu les balades de Todd à l'époque, toute cette époque. Non, c'est vraiment très chouette. J'apprécie beaucoup.
Merci beaucoup.
Vraiment, et je te souhaite le meilleur. Gagne.
Ouais. Ben oui, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, de gagner.
Voilà.
Le reste, ça ne compte pas. On s'en fout de participer. Vous présentez Oh Glory comme votre premier véritable album. Mais le tout premier, c'est Yes, c'est No, ça ne compte pas ?
Ben, c'était plus comme une esquisse pour moi. C'est-à-dire que ça a été fait tellement sur une sorte d'impulsion. Tout avait été fait en 3 mois, l'écriture, la composition, l'enregistrement, le mix, le mastering. Donc c'était vraiment une sorte d'intention. Comme si j'avais trouvé le cœur de ce que je voulais faire, ou le geste plutôt. Et je l'ai fait le plus rapidement possible. Alors que Oh Glory, c'est un album qui m'a pris plus de temps à concevoir et où j'ai été un peu plus méticuleux sur le narratif de l'album dans sa globalité.
La dramaturgie, pensez le début,
exactement,
le milieu, la fin, la construction. Pour identifier votre son, vous parlez de post-pop. Ça revient souvent.
Ouais.
Ça veut dire quoi pour vous ?
Alors déjà, pop, c'est par rapport à l'écriture, c'est un format classique, couplet, refrain, des top lines. J'aime l'aspect généreux de la pop, le fait que ce soit accessible à tous, qu'il n'y a pas besoin d'une une éducation musicale très élevée pour pouvoir ressentir des choses. Et post, c'est plus pour post-genre, c'est-à-dire que dans la façon dont je produis la musique, j'emprunte de genres tellement différents, de la techno de Berlin, de la trap des US, du reggaeton de Puerto Rico, que finalement le concept de genre, il se volatilise un peu. Et voilà, donc les deux ensemble, c'est la contraction de ces deux choses qui a donné post-pop.
Pour qu'on comprenne d'où vous venez, je vous ai demandé votre titre déclencheur, c'est celui-ci.
She's the last of the English rock.
identification du titre, identification de la voix.
Donc c'est Last of the English Roses de Peter Doherty. C'est un album qui, quand il m'est tombé entre les mains, que j'ai vraiment écouté en profondeur. Et je me rappelle avoir essayé de tout de suite récupérer les accords, de chanter chaque morceau de l'album. J'ai beaucoup appris sur les accords grâce à cet album. Et moi, c'est ça qui m'a donné vraiment l'élan pour écrire ma première chanson. J'avais eu des passions avant, beaucoup de rap, de gangsta rap des US, de Method Man, Redman, Tupac et tout ça, des phases rock de Nirvana ou New Wave de mes parents comme Talking Heads, mais c'est cet album-là qui m'a vraiment poussé à écrire.
C'est bizarre parce que justement, je lisais qu'au départ, vous étiez, on va dire, un enfant du rap, vous venez de le confirmer, et que vous êtes converti à l'écriture pop après un voyage en Norvège. C'est là-bas que vous avez découvert ce son ?
La pop, ouais. Enfin, c'est là que j'ai découvert l'aspect généreux d'une performance live, d'une chanson qui est facile à comprendre et que finalement on peut chanter à la première écoute. Sur le refrain, on peut se joindre à ce qui se passe. Et oui, c'est ma famille norvégienne à qui je rendais visite en Norvège un été, qui, après les dîners, sortait les guitares de façon très naturelle et qui se mettait à chanter des reprises, souvent des reprises des Beatles. Et il y avait les harmonies, les voix graves des hommes, les filles qui chantaient les aigus et tout ça. Et c'était ma première expérience musicale sacrée, j'ai envie de dire. Et quand je suis rentré en France, tout de suite, j'ai piqué la guitare de mon père et j'ai commencé à essayer de gratter un peu de trois choses.
Père musicien ?
Dans son enfance, oui, il a fait de la musique, il a eu des petits groupes et tout ça. Mais il n'a pas poursuivi dans cette voie-là. Mais du coup, j'ai récupéré sa guitare qui m'est très chère. C'est une guitare qu'il a achetée quand il avait 15 ans, une Fender Stratocaster des années 70 qu'il avait achetée pour pas grand-chose, qui aujourd'hui vaut une petite fortune. Et c'est avec celle-ci que j'enregistre tous mes albums.
Un mot sur la pochette de cet album, une pochette d'un visage doré.
Ouais.
J'ai lu que la pochette avait été réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle. Mmh. Comment vous l'avez nourrie ? À base de quoi ?
Alors, on a nourri l'intelligence artificielle de deux univers opposés. L'un était un univers assez froid, qui vient de Tumblr, début des années 2000 et 2010. C'est ma compagne, Sonia Fix, donc, avec qui je collabore et avec qui je construis tout cet univers, qui avait ce blog. C'est des images très froides, un peu post-soviétiques, un peu violentes, sexy, trashy un peu. Et on l'a opposé à quelque chose de plus utopique, utopiste, dans l'idée de prendre un âge d'or, de prendre quelque chose, une époque avec une effervescence culturelle, comme la belle époque parisienne, ou des choses comme l'Égypte antique, ou la Grèce, ou des choses comme ça. Et donc voilà, il y a le côté utopique et dystopique. Et ensemble, on a nourri cette intelligence artificielle, on a écrit quelques poèmes, et ça a généré 2000 images, je crois.
Ah ouais, c'est énorme.
On en a choisi une. Et puis après, c'était pas ce qu'est la pochette, mais on l'a encore modifiée pour l'amener un peu plus dans l'univers de l'album. Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette pochette.
L'intelligence artificielle pour la pochette, est-ce que vous en servez aussi pour écrire et pour composer ?
Non. J'ai jamais essayé de faire ça. Je suis assez intéressé. Après, ce que j'ai entendu, ça. C'était pas fameux, pas encore très fameux. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire dans cette technologie. Je trouve ça intéressant. Moi, je suis pas contre les outils. Je sais qu'il y a souvent des débats comme ça, récurrents. À un moment donné, c'était autotune. Alors, les pour, les contre, ça. Au final, je pense que c'est que des outils et tout dépend comment on les utilise.
Vous avez un tatouage sous l'œil gauche. Il est marqué Reckless, traduction téméraire. À quelle occasion vous l'avez fait?
Je l'ai fait à Vienne, c'est ma compagne d'ailleurs qui l'a fait, avec une aiguille.
Ah ouais, elle est dedans.
C'était...
Elle travaille votre image. Hein.
C'est elle qui a fait aussi la coupe de cheveux.
Qui ressemble à très... Il y avait une pochette de disque Antenna.
De J.J. Johansson.
J.J. Johansson,
ouais.
Vous connaissez pas ?
Non.
Oh, il y a...
Début des années, je dirais milieu des années 2010, un truc comme ça.
Ah ouais, regardez, c'est la même.
Ok, je vais checker.
Sauf que vous êtes brun et que lui, c'était plutôt dans le... C'était roux, c'est ça,
ok.
Oui, c'est exactement la même.
Je suis curieux.
Antenna,
ok.
Très bon.
Oui, du coup, c'est par rapport au tatouage, c'est à un moment donné où il y a eu une sorte de moment charnière dans ma vie. Je voulais un peu tirer un trait avec l'univers de la mode et tout ça. J'avais envie d'un peu désacraliser les codes de beauté et tout ça, qui m'emprisonnaient beaucoup, en tout cas qui m'angoissaient un peu. Et puis, j'étais assez paralysé dans ma vie tous les jours par mes problèmes. Et j'avais envie de me donner à fond dans la musique, de pas avoir de plan B, de jamais abandonner. Du coup, c'est ça, ce tatouage. C'est l'idée de, c'est une sorte de promesse que je me suis faite. C'est l'idée de, d'aller au bout de mon potentiel et de mes ambitions. Et pas de plan B.
Ouais, plan B. Mais vous avez, ça veut dire que
je
vous avez.
Je prendrai pas un travail à la banque.
Ouais. Voilà. Vous avez douté donc à un moment donné de la possibilité de vivre de la musique ou de pouvoir en faire?
Oui, enfin, j'ai douté. À un moment donné, j'avais plusieurs choix possibles et j'avais l'impression que finalement, avoir une sorte de travail commun ou de rentrer pleinement dans le système, c'était quelque chose qui m'asphyxiait un peu et que je me refusais de faire. Je voulais vraiment faire quelque chose d'artistique dans ma vie. Ça comptait énormément. Et pour moi, la musique, ça, je sentais que ça m'appelait et je voulais pas me donner la chance ou l'opportunité de faire autre chose, quelque part.
Qu'est-ce que vous avez fait de plus téméraire dans votre vie? Puisque c'est le sens du tatouage que vous portez sur le visage.
Je pense que peut-être le fait d'avoir fait un enfant assez jeune, c'était quelque chose qui était assez risqué et osé, un peu qui en a effrayé plus d'un autour de moi. Mais je pense que c'est une des choses les plus belles que j'ai fait de ma vie.
Il a quel âge aujourd'hui? Ou
elle a 5 ans aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle écoute comme musique? Qu'est-ce que vous lui faites écouter? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous avez un parcours de musicien avec des incursions. Vous venez de le mentionner dans le milieu de la mode et du luxe. Hein. Il y a eu Céline, il y a eu Marine Serre, Cartier. Ça vous a permis quoi?
Alors, quand moi j'ai travaillé dans la mode, c'était avec Eddie Slimane et c'était pour Yves Saint Laurent à l'époque. Et c'était en tant que mannequin, ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens, de vivre à Los Angeles pendant quelques temps. Et voilà, de voyager, d'être confronté à des environnements différents. Et aujourd'hui, la mode, ça a une autre dimension parce qu'elle vient compléter un peu l'esthétique de la musique. Et puis, elle permet des collaborations aussi créatives. Donc aujourd'hui, ma relation avec la mode, elle est plus entre celle de créateur à créateur que de designer à mannequin.
Aujourd'hui donc, réédition de luxe de Au Glory avec un inédit, Wish I Could Cry. Vous le présentez en deux mots?
Emo Trap.
Wish I could cry, wish I could cry, all I feel. Been so long, I'm only waiting for the right way. To cry for my mama, cry to myself for what I've been through, a time that almost got me passed away. Like I can tell them all I knew, but I know they won't get it. Give me a reason to try, reason to keep living. Could ever slide out my eyes, out my soul. Heaven knows everywhere that I could renew. I fell apart several times. Make it right for you, my loving. I've been down, down the wrong road, alone, and now I can tell them all I know. Reason to keep living.
Votre voix aimée Simone pour clore Côté Club, parce que oui, c'est le moment des adieux. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je rappelle l'album Au Glory dans sa réédition de luxe. Et puis on a rendez-vous le 9 février en direct sur France Inter pour les Victoires de la Musique. Vous êtes nommé dans la catégorie Révélation Masculine 2024. Jean-Yves Labat de Rossi, merci à vous.
Merci.
Content de vous avoir lu. Rock Me Amin, c'est aux éditions Artaud. Et puis il y a la musique classique sur le label Ad Vitam Records, c'est le vôtre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Gardien de musée, amusé, j'ai fait 4 tours du monde en une ronde.
Gardien de musée, ce fut un des métiers de David Scrima qui signe son premier album à 50 ans. À ses côtés, Elliot Armen partira en live. Et pour nous, Marion, ce sera...
Rendez-vous avec les nouveautés nouvelles et 3 sons à découvrir.
Côté club, on ferme. Je vous souhaite la bonne fin de soirée. À demain.
Oh, c'était formidable.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.